Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Bon nombre d'Israéliens ont déjà pris ce matin, dès les premières heures, le chemin des bureaux de vote pour élire leurs nouveaux députés à l'issue d'une campagne assez largement acrimonieuse et où les sentiments exprimés auront reflété la diversité des opinions quant à la voie à suivre pour leur pays. Deux listes sont données au coude à coude. À droite, le Likoud de Bibi Netanyahou et au centre droit, l'Alliance bleu-blanc de Benny Gantz.
Depuis samedi dernier, bravant l'interdiction de manifester, ils sont des milliers de Soudanais à être rassemblés devant le quartier général de l'armée.
Et la foule exhorte l'institution militaire à soutenir leur mouvement de contestation et à discuter avec eux d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir.
Dans votre journal également, Theresa May qui se rend aujourd'hui à Berlin puis Paris dans l'espoir de convaincre la chancelière allemande et le président français de soutenir sa nouvelle demande de report du Brexit lors du sommet européen prévu demain.
La première ministre britannique souhaite un second ajournement de la date de sortie de son pays de l'UE jusqu'au 30 juin. Enfin, après le bilan des contributions au grand débat national, Édouard Philippe doit présenter aujourd'hui devant l'Assemblée le sens politique qu'il donne à cette consultation. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui plaidé ce matin pour que baisse en priorité l'impôt sur le revenu afin de répondre à l'exaspération fiscale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'Europe, un bonheur tragique, on en parlera avec notre invitée, la psychanalyste et historienne de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco, qui sera donc avec nous dans la deuxième partie de cette grande table spéciale Europe.
Merci et à tout à l'heure. C'est donc le moment de vérité en Israël. Depuis ce matin, 6 millions d'électeurs sont appelés à voter pour des élections législatives dont l'issue aura rarement été aussi incertaine. Alors non pas parce que la domination à la fois idéologique et politique de la droite pourrait être profondément remise en cause. Non, si certains semblent déjà sentir le vent du changement souffler sur les urnes, c'est davantage dans sa capacité inédite à faire vaciller l'indétrônable Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, faute de faire apparaître des différences de programme significatives, ce scrutin a toutes les allures en réalité d'un référendum, donc sur la personne du Premier ministre, lequel ne laisse personne indifférent, adoré des uns et détesté des autres. Et c'est ainsi qu'en dépit de la quarantaine de listes en compétition, ces élections se résument pour l'essentiel à un duel au sommet entre d'un côté Benjamin Netanyahou, 69 ans, en quête d'un cinquième mandat et possiblement d'un record de longévité, et puis de l'autre Benny Gantz, 59 ans, ex-chef d'état-major, novice en politique mais a priori très populaire. Ambiance ce matin devant un bureau de vote de Tel Aviv avec notre envoyé spécial Valérie Crova.
Dans ce bureau de vote installé dans une école, les habitants de ce quartier du nord de Tel Aviv se succèdent sous un beau soleil. Une femme tient sa carte d'électeur dans la main. Je suis très enthousiaste, on veut du changement. Nous ne pouvons plus supporter la coalition avec le Premier ministre que nous avons. Il est terrible, absolument terrible. Il a changé toute l'atmosphère en Israël. Il ment. Celui qui n'est pas avec lui est son ennemi. Les supporters de Benjamin Netanyahou ne sont pas majoritaires ici. La ville de Tel Aviv vote traditionnellement à gauche. Abraham fait figure d'exception.
Il a apporté beaucoup de sécurité, d'aura internationale. C'est important aussi. Il a construit quand même une relation internationale pour Israël qui est plutôt bonne. Je le connais peu, Gantz, je le connais peu, mais il n'a jamais été dans un gouvernement. Et donc j'ai peur que la gestion du pays ne soit pas tout à fait à la hauteur de ses compétences. Voilà.
Zohar, 32 ans, est désabusée. Elle a voté Benny Gantz, sans vraiment penser que son vote changera le résultat déjà acquis, dit-elle, pour Bibi.
On sait que ça va être Netanyahou. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mon mari a dit qu'il a reçu des cadeaux cette semaine parce qu'il y a Trump avec les Golan. Voilà, ici en Israël, ça donne du crédit politique.
Il faudra attendre 22h ce soir pour connaître les premiers résultats. Il reviendra ensuite au président Reuven Rivlin de désigner celui qui formera le prochain gouvernement.
Un reportage à Tel Aviv ce matin dans un bureau de vote signé de notre envoyé spécial Valérie Crova. Et pour continuer d'évoquer ces élections, invité de la rédaction aujourd'hui, Dov Alfon, ex-officier des services de renseignement israélien, devenu grand reporter, puis correspondant du journal israélien Haaretz à Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on l'a dit, les deux Benjamin, Netanyahou d'un côté et Gantz de l'autre, sont donnés au coude à coude avec une très légère avance pour le parti centriste sur le parti de droite. Sauf que depuis les toutes premières élections israéliennes, c'était en 1949, On le sait, aucun parti politique n'a jamais réussi à lui seul à obtenir une majorité absolue au Parlement. Ce qui signifie que l'un comme l'autre devront s'allier à d'autres formations pour gouverner. Or, à ce petit jeu, les projections de résultats des autres listes suggèrent que c'est plutôt Benjamin Netanyahou qui aurait l'avantage.
Disons que dans un pays tellement fracturé, où il y a énormément de listes qui sont à droite de Netanyahou, il aurait forcément un avantage à former une coalition. Mais Israël aussi se spécialise dans des résultats surprenants d'élections. Rappelons d'abord que Netanyahou a déjà perdu la majorité des voix au moins une fois contre Tzipi Livni, qui était alors la figure majeure du centre-gauche. Cela n'a pas empêché, trois semaines après, de réussir à former une coalition avec des ultra-religieux, avec toutes sortes de parlementaires qui n'étaient pas forcément à droite. C'est évidemment une énigme, hein. C'est un personnage intrigant et je le connais depuis longtemps. Je pense que j'ai eu 4 entretiens avec lui et à chaque fois on en ressort avec cette idée d'un opportunisme flagrant, presque cynique, mais en même temps d'une intelligence qui est au service de soi. Et pour lui, soi, c'est l'État. L'État, c'est moi.
Alors, s'agissant d'opportunisme, justement, pour mobiliser son camp et encourager le vote utile en faveur du Likoud, Benjamin Netanyahou, à l'instar d'ailleurs de 2015, a achevé sa campagne en se déportant plus à droite que jamais. En début de semaine, il a notamment parlé d'annexer les colonies de peuplement de Cisjordanie, alors même qu'au cours de ces 4 années, il aura tout fait au contraire pour contrer cette législation en ce sens. Comment faut-il interpréter ces déclarations à l'emporte-pièce ? S'agit-il d'une vraie conversion idéologique ou bien d'un pur calcul politicien ?
On voit très bien, d'après les réactions plutôt mitigées et calmes des Palestiniens, que personne n'est dupe. Ce sont là, évidemment, des déclarations tout à fait opportunistes classiques de Netanyahou. C'est toujours 2 jours avant un scrutin, c'est toujours 3 heures avant la fin quand les urnes vont fermer. Et donc c'est encore ces coups d'essai. Cela dit, le pays, il ne faut pas non plus se donner d'illusions, le pays est de plus en plus à droite, la société israélienne est beaucoup plus à droite qu'il y a 20 ou 30 ans, et donc forcément, Netanyahou a l'avantage, Benny Gantz, son principal, donc comme vous l'aviez annoncé, c'est presque la chance de le faire renverser, Benny Gantz aura besoin d'un écart d'au moins 5 à 6 sièges pour pouvoir convaincre les députés qu'il vaut mieux lui laisser sa chance de former une coalition.
Justement, s'agissant de coalition, cette stratégie, cette toute dernière stratégie de Benjamin Netanyahou n'est-elle pas risquée? Puisqu'on l'a dit, pour entrer au gouvernement, le Likoud aura besoin de l'appui des autres partis de droite, et notamment nationalistes, voire d'extrême droite. Or, avec ce genre de rhétorique, eh bien, il risque de prendre des voix à ceux-là même auxquels il devra in fine tendre la main.
Alors, vous savez, je viens de publier en France un roman d'espionnage qui a été un grand best-seller en Israël, l'Unité 8200. Et dans ce livre qui est de fiction, il y a un personnage de fiction qui est le premier ministre israélien. Et c'est avec un cynisme total qu'il va mettre à son service les services de renseignement israéliens, puisque c'est un livre d'espionnage. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre ces déclarations, ces efforts de massacrer maintenant les partis à sa droite, pour avoir la chance peut-être d'avoir ce fameux écart face à Gantz. Est-ce que c'est 4 sièges de plus pour Netanyahou ou est-ce que c'est 4 sièges de plus pour Benny Gantz? À la fin, dès les premières projections de 22 heures, ça va être la question qui va résonner dans la tête des petits partis, de ceux qui sont passés, bien sûr, qui ont franchi le seuil des 4%. Et c'est donc pour cela qu'il joue le tout pour le tout et qu'il dit « ne votez pas pour mes anciens partenaires de droite, votez pour moi ». C'est dangereux, mais il s'en sort toujours.
Alors, au-delà de cette rhétorique du Premier ministre volontiers décrié comme anti-arabe, la grande question de ces élections, c'est de savoir si Netanyahou aura réussi à convaincre les électeurs de fermer les yeux sur les affaires de corruption qui sont associées à son nom. C'est la vraie différence en réalité avec 2015. Est-ce que cela peut faire la différence?
Tout à fait. D'abord, il y a énormément de gens de droite qui risquent de se dire « bon, je ne vais pas voter quand même pour quelqu'un avec des chefs d'accusation pareils, qui est soupçonné avec force preuve d'une corruption directe ». Donc ils risquent de rester chez eux ou, et c'est là le vrai danger pour Netanyahou, d'après lui, de voter pour des partis qui sont encore plus à droite que lui, mais qui ne sont pas acquis à sa cause. Alors, je propose un coup de projecteur sur l'un des plus bizarres de ces candidats. Il s'appelle Moshe Feiglin. C'est un raciste nommé, un ultra-droite extrême pendant des années. Et soudain, à 56 ans, le voilà devenu chef de file d'un parti libertaire qui est pour la légalisation des drogues douces, qui est pour les mariages homosexuels. Et ce genre de personne qui est de personnalité d'extrême droite qui soudain pourrait très bien dire oui à Benny Gantz, c'est là un danger mortel pour Netanyahou, puisque s'il n'est pas Premier ministre, il ira en prison.
Alors, s'agissant de cette alliance centriste bleu-blanc, son identité demeure encore assez floue. La formation dit fonder sa stratégie sur une volonté évidemment d'alternance, mais aussi d'apaisement du débat public. Qu'est-ce que cela signifie ?
Je pense que votre reportage a très bien fait le point là-dessus. Israël est un pays avec tellement de rivalités, tellement de haine entre les partis, que les gens se disent, si j'enlevais Netanyahou de cette équation, s'il disparaissait de l'échiquier politique, le débat soudain deviendrait plus civil, peut-être moins haineux. Et donc, on ne sait pas si Benny Gantz serait vraiment centre-droite, centre-gauche. Est-ce qu'il va améliorer les chances de paix au Moyen-Orient ? On n'en sait rien. Mais on sait que cette haine diffusée à longueur de messages, vidéos, directs, sur les réseaux sociaux par Netanyahou même, est très dangereux pour une société comme Israël.
Merci, Dov Alphon, je le rappelle, correspondant du journal israélien Aretz à Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Puis je rappelle également le titre donc de votre tout premier roman, déjà best-seller en Israël, mais à paraître jeudi en France, Unité 8200, publié aux éditions Liana Levy. Algérie, année zéro, ou presque, ce matin, comme prévu, le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, a été nommé chef d'État par intérim, en lieu et place donc d'Abdelaziz Bouteflika, et ce jusqu'à la prochaine élection présidentielle, soit pour une période de 90 jours, une décision conforme en tout point à la stricte application du fameux article 102 de la Constitution, mais qui constitue en réalité le premier échec essuyé par la rue depuis l'émergence, dès le 22 février, d'un mouvement populaire destiné à renverser le système. Et pourquoi ? Parce que la désignation d'Abdelkader Ben Salah vient démontrer au fond combien la transition politique dans le cadre constitutionnel reste aujourd'hui indissociable des figures du régime au nid de l'ancien président, ou quand le scénario à l'œuvre sonne sinon comme une revanche des caciques du régime, à tout le moins comme un sérieux rappel à l'ordre à la contestation populaire. Parce qu'ils entendent eux aussi briser les chaînes de l'immobilisme, mais surtout parce qu'ils n'ont visiblement plus peur du régime de leur président, l'autocrate Omar el-Béchir, soutenu par les islamistes. Les Soudanais se sont mis à rêver enfin de la chute de la dictature au pouvoir depuis 30 ans. Après 3 mois de manifestations réprimées, le mouvement de protestation s'est amplifié depuis le week-end dernier. Cela fait 3 nuits maintenant que les opposants aux dictateurs campent devant le ministère. Et hier, des soldats ont même pris la défense des milliers de manifestants anti-gouvernementaux que les services de sécurité tentaient de disperser. Alors est-on à l'aube d'un autre renversement ? Claude Guibal, bonjour.
Et bonjour.
Ce qui est sûr, c'est que la décision de l'armée sera très probablement décisive dans ce rapport de force.
Oui, c'est vrai que l'armée maîtresse du jeu, c'est quand même un classique de ces régimes qui ont une colonne vertébrale militaire, le Soudan, l'Algérie, l'Égypte. Et du coup, les analogies sont tentantes. Hier, ils étaient effectivement des milliers à demander aux militaires la création d'un gouvernement de transition pour remplacer Omar el-Béchir. On a vu aussi à plusieurs reprises l'armée laisser faire ou du moins protéger les manifestants, mais difficile pour autant de savoir jusqu'où ça peut mener. Parce que elle n'est pas homogène, cette armée soudanaise. Sa composition reflète la population qui est dans la rue, la classe moyenne et supérieure qui est descendue au début pour protester contre les 70% d'inflation, le triplement du prix du pain. Or, cette crise économique, elle est quand même directement liée à la mauvaise gestion par l'État de la baisse des revenus liés à la perte des 2/3 des réserves pétrolières, et ça depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Alors tout ça, ça a évidemment un impact sur les secteurs économiques contrôlés par l'armée. Les militaires se retrouvent ainsi face à des gens dans les manifestations, des gens qui leur ressemblent. Il faut voir enfin dans ces failles qui agitent l'armée, une forme aussi d'agacement face au pouvoir pris par d'autres forces de sécurité au détriment des militaires au Soudan. Et donc la tentation pourrait être de faire comme en Égypte, par exemple, de sacrifier Omar al-Béchir pour permettre à l'armée de jouer les sauveuses, de rester ainsi aux manettes. Mais ce serait oublier que beaucoup ne veulent pas que cette contestation aboutisse, à commencer par le tout-puissant voisin égyptien, le président, mais surtout ex-maréchal Abdel Fattah al-Sissi.
Merci Claude Guibal. En Libye, là-bas, les combats font toujours rage aux portes de Tripoli entre l'armée fidèle au Premier ministre Sarraj et les troupes du maréchal Haftar, compromettant chaque jour un peu plus la réconciliation espérée entre deux factions politiques rivales et armées. Même si l'Occident a toujours pour objectif de défendre la conférence prévue par l'ONU dimanche prochain, conférence censée préparer les élections, le maréchal Haftar, lui, visiblement n'en a cure. Et pour cause, non seulement la situation actuelle est l'illustration la plus éclatante de l'échec de l'interventionnisme occidental, mais la confrontation à l'œuvre sur le terrain continue par ailleurs d'agiter des intérêts qui dépassent assez largement les frontières libyennes, qu'il s'agisse des appétits de certains liés au pétrole et aux hydrocarbures dont les réserves libyennes sont les plus vastes d'Afrique, ou bien du jeu d'influence exercé par les différentes monarchies du Golfe, entre d'un côté les Saoudiens favorables au maréchal Haftar et puis de l'autre les Qataris favorables au Premier ministre Sarraj, réputé très proche des frères musulmans. Or les frères musulmans, ennemis jurés de la dynastie saoudienne, sont justement financés par le Qatar. Washington bien décidé à poursuivre son bras de fer avec Téhéran, faute d'avoir réussi à entraîner derrière eux d'autres signataires de l'accord sur le nucléaire. Les États-Unis ont décidé hier de placer les gardiens de la révolution, comprenez le corps d'élite du régime de la République islamique, sur la liste des organisations terroristes. La réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Le Conseil suprême de sécurité nationale a aussitôt et tout simplement désigné à son tour les forces militaires américaines comme organisation terroriste. C'était en septembre 2014, pendant près de 3 mois, des centaines de milliers de Hongkongais étaient descendus dans les rues pour réclamer une véritable démocratisation de la vie politique. En vain, ce matin, les 3 principales figures du mouvement de désobéissance civile Occupy ont été reconnues coupables de conspiration en vue de provoquer des nuisances public, il risque la prison. Alors à l'automne dernier, au procès, l'accusation avait argué que les manifestations de masse avaient causé du tort aux habitants touchés par le blocage des voies de circulation. Et aujourd'hui, plus que jamais, les défenseurs des droits humains dénoncent un procès politique de mauvais augure pour les libertés de l'ex-colonie britannique confrontée à l'emprise de plus en plus affirmée de la Chine. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
Il y a d'abord Shan Kinman, 60 ans, professeur de sociologie à l'université de Hong Kong. Depuis 1993, ses conférences rassemblent plusieurs centaines de personnes dans l'amphithéâtre. L'enseignant qui a atteint l'âge de la retraite cette année a eu beaucoup de succès auprès des étudiants durant sa carrière. Militant historique, le professeur Shan concentre ses recherches depuis des années sur le développement des sociétés civiles et de la démocratie au sein des communautés chinoises. À ses côtés, Benny Tai, bientôt 55 ans, un professeur de droit. Benny Tai enseigne lui aussi à l'université de Hong Kong où il a fait ses études, ainsi qu'à Londres. C'est un activiste de la démocratie qui est dans le viseur du gouvernement chinois pour ses déclarations en faveur de l'indépendance de Hong Kong. Le troisième, c'est le révérend Xu Yunming, un pasteur baptiste de l'ancienne colonie britannique. Il est âgé de 75 ans. Ce défenseur de la démocratie a une longue histoire. Il a aidé à l'évacuation des dissidents de la place Tiananmen en 1989 dans l'opération Yellow Birds qui leur a permis de se réfugier à Hong Kong. Les 3 vétérans se sont entraînés pour se préparer physiquement et mentalement à la prison, mais ils ne regrettent rien. Ils disent s'inspirer de Nelson Mandela, emprisonné pour ses idées pendant un quart de siècle.
Quand Carlos Ghosn martèle son innocence et dénonce à nouveau un complot, je suis innocent, c'est donc ce que réaffirme Carlos Ghosn dans une vidéo enregistrée en début de semaine dernière, une vidéo en lieu et place d'une conférence de presse qui était prévue à l'origine par l'ancien patron de l'Alliance, Renault Nissan. Ghosn, qui est de nouveau emprisonné, je vous le rappelle, à Tokyo depuis jeudi dernier, vise directement dans cet enregistrement Nissan et défend donc la théorie du complot. Une vidéo qui n'a pas beaucoup surpris en revanche par son contenu, Yann Rousseau.
Tout le monde est resté un peu sur sa faim après ce visionnage organisé pour les médias à Tokyo, car Carlos Ghosn n'a rien annoncé de nouveau et surtout ses avocats ont coupé 30 secondes de son message. Ce sont les 30 secondes les plus intéressantes où il prononçait enfin les noms des dirigeants de Nissan qui seraient, selon lui, derrière le grand complot, derrière cette conspiration qui aurait provoqué sa chute. Pour justifier cette censure, ses avocats ont dit que c'était trop risqué sur le plan légal et au final, Carlos Ghosn reprend exactement le même message qu'auparavant. Des gens, chez le constructeur, auraient monté toute l'affaire pour l'empêcher de mettre à exécution ses plans pour l'entreprise. Il laisse entendre qu'il voulait remercier certaines personnes qui auraient mal géré Nissan. Il dit aussi que d'autres cadres ne supportaient pas l'idée d'une intégration plus poussée succès avec Renault. C'est pour ça qu'ils auraient comploté avant de le poignarder dans le dos. Mais enfermé dans cette thèse du complot, Carlos Ghosn ne répond à aucune des interrogations sur les éléments apportés par Nissan ou par le procureur. Il dit simplement qu'il est innocent de toutes les charges. Son avocat promet d'en faire la démonstration lors du procès, sans grande conviction.
La correspondance à Tokyo, donc signée du correspondant du journal Les Échos, Yann Rousseau. Les dirigeants européens se réuniront demain en conseil extraordinaire pour discuter d'un nouveau report de la date limite fixée à vendredi pour le Brexit. Sauf que le Royaume-Uni doit encore clarifier son plan pour éviter un départ désordonné. D'où la mission de la dernière chance de Theresa May en visite éclair aujourd'hui à Berlin, mais aussi à Paris. Objectif, obtenir leur accord pour un nouveau report de la date du divorce. Sauf que ce dernier coup tactique de la première ministre britannique pourrait avoir d'autres visées beaucoup plus machiavéliques. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. À la veille de la réunion exceptionnelle des hauts dirigeants de l'UE à Bruxelles, cette mini-tournée vise en réalité surtout à rappeler combien Angela Merkel et Emmanuel Macron ont adopté un positionnement opposé sur la question du report, une opposition qui pourrait donc faire des ordres lorsqu'il s'agira demain pour les 27 d'approuver à l'unanimité le report du Brexit.
Oui, Angela Merkel fait partie, Thomas, de ces leaders qui n'ont pas encore perdu patience avec les Britanniques et elle a tenu ce midi à se montrer résolument optimiste aux côtés de sa partenaire, à lui manifester son soutien. L'arrivée de Theresa May à la chancellerie à Berlin s'est faite sous un soleil radieux qu'Angela Merkel a volontairement désigné du doigt en regardant sa partenaire avec un très grand sourire, façon d'envisager peut-être des concessions, ce qui n'était pas le cas du tout quand la chancelière avait reçu Theresa May en décembre. Elle était beaucoup plus dure quand la chef du gouvernement britannique était venue à Berlin, qu'elle était restée même bloquée dans sa voiture pendant de très longues secondes devant ce tapis rouge, là où la chancelière allemande l'attendait, grimaçante sous la pluie. Ce qui compte maintenant pour Berlin en ce mois d'avril, a rappelé hier le porte-parole de la chancelière allemande, Stefan Seibert, c'est que l'Europe parle d'une seule voix et que cette unité soit maintenue tout au long du processus de discussion, façon d'appeler Paris à un peu plus de souplesse. Il y a toujours de bonnes raisons de se parler dans une situation aussi difficile et explosive que celle dans laquelle la Grande-Bretagne et les 27 États membres de l'Union se trouvent à quelques jours de la date butoir, ajoutait encore ce même porte-parole d'Angela Merkel. On peut lire ce matin dans le quotidien allemand The Deutsche Zeitung que la voix de la chancelière comptera beaucoup demain au sein du Conseil européen parce qu'elle est la chef de gouvernement en poste depuis le plus longtemps et qu'elle représente aussi la plus grande économie d'Europe. Elle a donc forcément, selon ce journal, un rôle spécial à même de faire converger les 27 sur une position commune et unanime qui serait celle d'une courte extension jusqu'au 22 mai à la veille des élections européennes.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. En France, après le bilan des contributions au grand débat national, le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter aujourd'hui devant l'Assemblée nationale le sens politique qu'il donne à cette consultation, un exercice d'équilibriste devant des députés qui attendent des propositions concrètes pour pouvoir débattre. La veille, lors de son intervention au Grand Palais, quatre grands axes de réforme ont d'ores et déjà été évoqués, à commencer par une baisse plus rapide des impôts pour répondre à, je cite, une immense exaspération fiscale. Alors reste encore à savoir ce qu'il faut lire derrière les lignes. Baisser les impôts de qui et surtout comment? Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, Bruno Le Maire a esquissé un début de réponse. Le ministre de l'économie a jugé que les baisses d'impôts prioritaires devront concerner les revenus les plus modestes avant d'ajouter que ces baisses devront être financées par des baisses de dépenses publiques.
Oui, il n'y a rien d'étonnant dans ce que dit Bruno Le Maire car cette politique économique, c'est déjà celle qu'il mène depuis Bercy. La fin de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales sont des baisses d'impôts pour les ménages modestes. Ce qui a péché dans la politique fiscale du gouvernement et déclenché en partie la crise des gilets jaunes, c'est l'augmentation de la CSG pour les retraités, ce qui a été corrigé pour ceux des revenus intermédiaires, et la suppression de l'impôt sur la fortune non immobilière. Et là, on sait qu'il n'y aura pas d'inflation à ce sujet. Alors, que peut faire le gouvernement en plus pour les ménages les plus modestes? Il pourrait baisser la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une idée qui recueille beaucoup de suffrages dans les grands débats, mais le ministre des Comptes publics a déjà rejeté cette proposition au motif que cela ne soutiendrait pas le pouvoir d'achat car les distributeurs augmenteraient leurs marges et qu'il fallait en plus l'autorisation de Bruxelles. Impossible donc de savoir à ce stade ce qui sera finalement proposé. Ce qui est sûr, c'est que le corollaire des baisses d'impôts pour le gouvernement, c'est la baisse des dépenses publiques. Cette baisse est au programme depuis le début du quinquennat. Sénat, mais le gouvernement la présente dorénavant comme validée par les grands débats. Or, sur quoi repose cette validation? Sur la question 3 du questionnaire en ligne, question fermée que je cite, « Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, il faut avant tout, choix 1, réduire la dépense publique, 75% des répondants, voilà la validation, choix 2, augmenter les impôts, 4%, faire les deux en même temps, 14%, je ne sais pas, 6%. Imaginons que dans les choix possibles, il y ait eu augmenter les impôts des entreprises ou rétablir l'ISF, les résultats auraient pu être radicalement différents. Voilà donc encore l'illustration que poser les questions, c'était fortement orienter les réponses.
Merci Marie Viennot. Le parquet de Paris a ouvert hier deux nouvelles enquêtes préliminaires dans l'affaire Benalla, dont une pour faux témoignage. Elle vise non seulement l'ancien chargé de mission de l'Élysée, donc, mais aussi l'ancien employé de La République En Marche, Vincent Crase, ainsi que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda. Enfin, l'information est signée de nos confrères de Mediapart dans l'affaire Le Guay, cette fois-ci du nom de cette militante d'attaque âgée de 73 ans, blessée par une charge de policier à Nice lors d'un samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Le procureur de la République a confié l'enquête préliminaire sur l'origine de ces blessures à la compagne du commissaire chargé des opérations policières. On termine avec un mot rapide de météo, des éclaircies de la Bretagne et des Pays de la Loire au nord de l'Aquitaine. Partout ailleurs, le temps de cet après-midi sera marqué par des averses qui pourront être localement orageuses. Quant aux températures, elles varieront entre 12 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.